100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonsoir à toutes et à tous. En ce lundi, comme tous les lundis, nous retrouvons Jean-Sara Méa, historien et géographe. Bonsoir Jean.
Qui vous retrouve avec grand plaisir. Alors, un petit bond de 10 ans et on se retrouve en 1955. Donc, toutes celles et ceux qui ont 70 ans
en 2025.
70 ans en 2025. Je peux vous dire que j'ai davantage.
Et alors, que se passe-t-il en 1955 dans le monde, à l'international?
Alors, j'ai choisi des événements qui sont oubliés et dont on ne parle pas énormément à l'époque et qui pourtant vont laisser un sillage reconnu et important. La conférence de Bandung, dite afro-asiatique, que nous apprenions et que nous devions enseigner dans les programmes scolaires, surtout de terminale, c'est la première grande conférence qui représente plus de la moitié, parce qu'il y a la Chine, de la population de la Terre, qui se fait en dehors des deux grands, c'est-à-dire en dehors de la mouvance soviétique et en dehors de la mouvance américaine. C'est-à-dire en grande partie le tiers-monde qui veut montrer à la planète qu'il existe et qui veut montrer aux deux grands qu'il va essayer une voie de développement sans s'aligner, d'où le nom de non-aligné, sans s'aligner derrière chacun des deux grands qui sont en période de dégel. Staline est mort en 1953, donc Khrouchtchev a beaucoup de sourires, il commence à voyager. Eisenhower, qui est le président des États-Unis, est lui aussi ouvert à ce que l'on appelle le dégel. Donc, disons, même s'il y a beaucoup d'expériences nucléaires, y compris britanniques, on a oublié que les Anglais faisaient leurs expériences nucléaires en Australie, un vaste désert. Bon, et les Australiens ne leur reprochaient pas. Donc, côté soviétique, Moscou essaie d'unifier les armées à l'est du rideau de fer en créant le pacte de Varsovie, qui est la réponse à l'OTAN. L'OTAN existe depuis 1949, donc l'Union soviétique coordonne toutes les armées des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, dans le pacte de Varsovie. Cette année-là, l'Autriche est indépendante, alors que jusque-là, elle était administrée par les vainqueurs. Donc, 10 ans après la fin de la guerre, l'Autriche est indépendante et neutre officiellement. Le Haut Comité aux réfugiés, qui est une des branches de l'ONU, est, à juste titre, prix Nobel de la paix. On a un peu oublié que cette année-là, l'Italie entre à l'ONU. Jusque-là, c'était invaincu. Et donc, elle n'était pas admise à l'ONU. Et cette année-là, l'Allemagne de l'Ouest, donc la République fédérale allemande, RFA, devient souveraine et entre dans l'OTAN, avec une lourde présence des vainqueurs, bien sûr, qui sont là depuis 1945. Voilà quelques idées importantes.
Et dans les vainqueurs, il y a la France. Que se passe-t-il en France?
Alors, c'est le président René Coty, je précise que ça s'écrit C-O-T-Y, et non pas C-O-2-T-I, comme écrivaient souvent mes élèves, René Coty, eh si. Bon, ce qui faisait rire quand je rendais les copies. Le ministre, c'est Edgar Faure. Alors, Edgar Faure est un centriste très habile sur le plan politique. Ce sera la seule fois, parce qu'il doit gérer les débuts de la guerre d'Algérie. Il va proclamer l'état d'urgence parce qu'en août 1955, il y a de très graves massacres contre les Européens. Avec représailles, évidemment. Donc Edgar Faure, à la fin de l'année, dissout l'Assemblée nationale. C'est la seule fois sous la 4e République, en disant, eh bien, il y aura des élections le 2 janvier, donc 56. Français, écoutez bien vos partis politiques. Je leur demande de prendre position. Qu'est-ce qu'on fait de l'Algérie? Et exprimez-vous sur ce grave problème. Ce sera l'enjeu des élections du 2 janvier 56. Autrement, Edgar Faure essaie d'apaiser les vives tensions en Tunisie en faisant revenir Bourguiba, qui avait été mis sous les verrous et exilé. Et il apaise les vives tensions au Maroc en faisant revenir le sultan du Maroc que la France avait exilé. Autrement, de façon plus technique, c'est l'inauguration du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Une prouesse technologique exceptionnelle, le plus haut et le plus long téléphérique du monde pendant des années. Ça avait été fantastique comme création avec quasiment pas de victimes, à plus de 3000 mètres. C'est le lancement de la DS Citroën et de la Caravelle. C'est le premier avion 100% français de l'après-guerre.
Et ce sera une belle transition vers la culture.
Oui. Alors, comme film, Les Grandes Manœuvres de René Clair, qui repasse très rarement, mais bon. Les Diaboliques de Clouzot. Napoléon de Guitry. Il y a eu d'autres Napoléons. Alors, je voudrais rappeler quelque chose, parce que ça a été donné en plusieurs émissions à la fin de l'année dernière, le Napoléon d'Abel Gance. Et la première partie du Napoléon d'Abel Gance est tournée au Champ de Mars à Briançon. Ce n'est pas précisé, mais on reconnaît, mais ça dure 20 minutes au moins, on reconnaît très très bien la collégiale, le Champ de Mars, en hiver bien sûr, parce que c'est là qu'il y a la bataille de Boule de Neige, avec le jeune Napoléon qui dirige ses troupes, disons. Mais vraiment tournée dans les années 20, donc sur le Champ de Mars de Briançon, le Napoléon d'Abel Gance, en noir et blanc, bien sûr.
Incroyable.
Ce n'était pas précisé, et en voyant, j'ai dit « Oh, mais c'est Briançon !» Et on voit très bien la porte de Pignerol, on voit très bien, vraiment, on reconnaît. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas toutes les constructions, on est, il y a un siècle. Voilà. Autrement, c'est le démarrage, mais ça va jouer un rôle historique, du transistor, qui va être accessible sur le plan financier. Beaucoup de jeunes adultes français vont s'offrir ou se faire offrir le transistor. C'est fantastique, c'est la première fois qu'on peut écouter la radio avec des piles, c'est-à-dire en se promenant, en prenant la voiture ou le vélo, sans être obligé de se brancher sur secteur. Et ça va jouer un rôle un peu plus tard, puisque les militaires français pourront écouter le général de Gaulle. Ce sera au début des années 60, et ils n'écouteront pas leur gradé. Cette année-là, c'est le record du monde de vitesse sur rail. C'est une locomotive française, 331 km/h, locomotive électrique. C'est la grande ligne droite à travers les Landes, Bordeaux, Bayonne. Voilà. Autrement, Beckett fait jouer En attendant Godot. Autrement, Boris Pasternak écrit Le docteur Jivago, ce qui lui vaudra le prix Nobel, mais il n'aura pas le droit d'aller le recueillir. Il n'aura pas l'autorisation de Moscou. Et les studios Walt Disney, c'est La Belle et le Clochard. Eh oui, 1900. Autrement, c'est la naissance du pop art en Angleterre et en France, puisque son musée est à Aix-en-Provence, Vasarely lance l'art cinétique.
Et que se passe-t-il au niveau du sport?
Juste deux éléments. Juan Manuel Fangio est champion du monde de Formule 1. Vraiment un grand, grand coureur. M'a oublié 70 ans après, mais il était argentin. Hein? Et c'est la troisième fois que Louison Bobet gagne le Tour de France.
dont on parlait il y a 3 émissions, donc il a seulement 30 ans et donc 3 Tours de France. On parlait de sa naissance.
Tout à fait.
En 1925. C'est cela. Alors, nous passons désormais aux décès et aux naissances. Alors, les grands décès.
Quelques peintres très célèbres, Utriot, Nicolas de Staël et Fernand Léger, qui ont beaucoup vécu dans les Alpes-Maritimes. L'écrivain Thomas Mann, qui avait été prix Nobel. Le grand écrivain et dramaturge français Paul Claudel. L'immense scientifique Einstein. Le musicien suisse Honegger. Le chercheur Teilhard de Chardin. Et l'acteur, trop jeune pour ses fans, James Dean. Comme naissance, bon, fait un choix. Le coureur automobile Alain Prost, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, grandes actrices, l'homme d'affaires et qui a créé des organismes pour vacciner le plus possible d'enfants dans les pays pauvres de la planète, Bill Gates, Nicolas Hulot, Jean-Luc Lahaye et Charlotte de Turckheim. Pardon pour un choix peut-être arbitraire. Alors, 1955, c'est le premier Grand Prix de l'Eurovision pour les chansons. Boris Vian crée cette année-là une chanson que, longtemps plus tard, nous avons dû expliquer dans les manuels d'histoire. C'est la complainte du progrès. La jeune femme Gudule qui se voit offrir la tourniquette, l'aspire-poussière, etc. Bon, c'était une façon de se moquer gentiment du consumérisme qui était le souhait de la plupart des gens en 1955, mais qui était un petit peu brocardé par ce chansonnier. Mouloudji, Mon pote le gitan, qui est une chanson connue. Brassens, chanson pour l'Auvergnat, où il y a des sentiments humanitaires particulièrement exprimés. Bon, mais on est 10 ans après la fin de la guerre, les gens rêvent de vacances et il y a désormais, disons, 15 jours à 3 semaines de vacances selon les professions et on rêve de descendre la Nationale 7 pour aller évidemment sur les plages de la Méditerranée. Et on écoute et on fredonne l'hymne spécifique de l'opérette Méditerranée de Francis Lopez, qui au départ est chantée par Tino Rossi, mais qui sera chantée par bien d'autres. Méditerranée, la 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 la. Pardon, il a plu aujourd'hui, on ne risque rien.
Mais on va vers l'été, alors ça nous fera partir en vacances en avance. À la semaine prochaine, Jean-Sarah Méa.
À très bientôt.
Merci à toutes et tous pour votre écoute.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées,
dans les